Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il va s'appliquer à la région Île-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.
Le président a tranché et la mesure est radicale. Couvre-feu pour un mois minimum. Des millions de Français vont devoir changer leurs habitudes de vie. Ce couvre-feu se justifie-t-il sur le plan sanitaire? Quid des restaurateurs? Quelles aides pour aider les secteurs impactés? Comment réagissent les jeunes clairement ciblés par le chef de l'État? Quelles conséquences pour notre santé mentale? Page complète dans ce journal. Nous ferons également un point sur le reste de l'actualité avec du foot, notamment ce soir. Les Bleus affrontent en ce moment la Croatie à Zagreb. Où vous vous trouvez, Cyril de la Morinerie?
Oui, ça reprend depuis 5 minutes en seconde période et les Bleus mènent toujours 1-0 avec le but de Griezmann.
A tout à l'heure Cyril, le temps de demain, éclairci à l'ouest, humide et frais à l'est, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en légère baisse de 0,12% à 4941 points. Les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho, dans 20 minutes, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Didier Chesnel, le président du GNI qui regroupe des restaurateurs dont l'activité va être fortement impactée par ce couvre-feu.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron voulait provoquer un électrochoc. La mission semble ce soir réussie tant la mesure principale annoncée par le président est radicale. On écoute le chef de l'État.
La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France et à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h. Il durera, le gouvernement est en mesure de le décider, pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre.
6 semaines potentiellement donc de couvre-feu, c'est tout simplement inédit. Mesure choc, Michaël Darmon, pleinement assumée ce soir par le chef de l'État.
Oui, effectivement, on voit bien que le président est happé par cette deuxième vague et il doit, pour l'affronter, absolument assumer des décisions très très difficiles et un changement drastique dans la vie des Français. C'est une forme, au fond, de reconfinement horaire, de reconfinement nocturne qui a été annoncé effectivement ce soir avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la vie du pays, sur la vie économique. On voit bien aussi que le président de la République ce soir a sans arrêt, sans les nommer, voulu cibler les jeunes, les sensibiliser parce que le chef de l'État est absolument convaincu que c'est par les jeunes, c'est par le transfert. Et d'ailleurs, il a dit le virus circule entre les générations. Et il a voulu absolument les cibler, mais sans les stigmatiser, sans, on nous disait depuis quelques jours, les engueuler, parce qu'effectivement, il va falloir quand même aussi préserver une forme de cohésion nationale. C'est tout le pari, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu le mot qu'il a utilisé aussi ce soir, c'est le pari du président de la République, à la fois continuer à cheminer selon le principe qu'il faut vivre avec le virus, et en même temps, essayer de régler quand même le quoi qu'il en coûte. C'est ce chemin extrêmement ténu que veut emprunter aujourd'hui le chef de l'État, qui voit d'ailleurs sa rentrée totalement bousculée, rattrapée par la réalité. Lui, il voulait se consacrer au plan de relance et aussi à des questions internationales. Le voilà rattrapé par la réalité et aujourd'hui obligé de s'occuper à nouveau de la question du Covid-19.
Un président en première ligne donc pour contrer la seconde vague. Merci Michaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Alors concrètement, il faudra être rentré du travail à 21h. Emmanuel Macron l'a dit, même si des dérogations vont être mises en place. Pas de restrictions dans les transports pour les personnes travaillant en horaire décalé, ni d'interdiction de départ en vacances et de déplacement entre les régions. Reste, vous l'avez dit Michaël, que c'est le quotidien de millions de Français qui va être bouleversé. Anne Le Gall, vous êtes notre spécialiste santé. Est-ce que ce couvre-feu d'un mois minimum donc se justifie au regard de la situation sanitaire?
Oui, le président l'a rappelé, le virus est partout en France. On en est aujourd'hui à 20 000 nouveaux cas par jour. Il faudrait retomber à 3 000 ou 5 000 cas. Chaque jour, 200 Français entrent en réanimation. C'est plus de 30 ou 35% des lits qui sont occupés dans plusieurs grandes villes. Il faudrait retomber à 10 ou 15% d'occupation au maximum. Le couvre-feu, c'est donc une mesure proportionnée, a insisté Emmanuel Macron, car il s'agit de protéger notre système de santé.
On a entendu ces dernières semaines, parfois certains dire « moi je ne suis pas concerné, ne m'enlevez pas ma liberté si j'ai le droit d'être contaminé ». Ce n'est pas vrai, parce que nous sommes une nation de citoyens, on est tous liés les uns les autres. Et donc, même si je ne veux pas être altruiste, Freiner le virus, c'est aussi protéger ma santé. Parce que si je ne le freine pas, demain, si j'ai autre chose, ma mère, mon père, ma sœur a autre chose, il n'y aura plus de place pour le soigner.
Là, du couvre-feu, le chef de l'État en appelle aussi à la prudence dans la sphère privée. Aérer ses pièces 3 fois par jour, garder la distance d'un mètre ou porter le masque, même quand on est avec des amis ou de la famille qu'on ne côtoie pas tous les jours. Et si possible, il ne faut pas dépasser la règle des 6 personnes à table quand on invite des proches. Ça vaut aussi pour les plus jeunes. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, a dit Emmanuel Macron, mais il va falloir accepter de se voir en étant moins nombreux pendant quelques temps.
Merci Anne Le Gall. Vous venez de mentionner les jeunes. Romain Oquet, vous êtes à la Cité universitaire de Paris et vous avez suivi l'intervention du président avec des étudiants qui, on l'imagine, sont ce soir dépités.
Oui, des jeunes lassés par ces nouvelles restrictions, car dans la Cité universitaire, où les appartements dépassent rarement les 15 mètres carrés, le traumatisme du confinement est encore là. Le couvre-feu, c'est d'ailleurs la mesure qu'Ophélie redoutait par-dessus tout. Elle nous ouvre la porte de sa petite chambre d'étudiante.
Je suis plutôt dépitée. Il faut se rendre compte de la réalité des jeunes qui vivent en Cité universitaire, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vis dans une chambre de 14 mètres carrés. On vit loin de nos familles. Les gens qu'on peut rencontrer dans cette cité, parfois, c'est tout ce qu'on a. On nous punit de vivre, on nous empêche de vivre notre jeunesse à fond. C'est plutôt injuste en fait.
Des étudiants amers qui ont le sentiment d'avoir été pointés du doigt ce soir durant l'interview du président. Pourtant, Ophélie et ses amis le disent sans détour. Hors de question pour elles de rester enfermées dans leur chambre après 21h. Elles qui ont l'habitude de passer leur soirée les unes chez les autres. Dans la résidence ce soir, il y a d'ailleurs beaucoup de bruit derrière certaines portes et aucune surveillance dans les couloirs.
Merci Romain Oquet en direct de la Cité universitaire de Paris. La capitale qui n'est donc pas la seule ville concernée par ce couvre-feu. Toute l'Île-de-France ainsi que 8 autres métropoles vont devoir apprendre à vivre autrement. Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier, Toulouse et Lille où l'on vous retrouve en direct, Lionel Gougelot. Lionel, comment réagissent les Lillois ce soir? Ils sont en colère ou fatalistes?
Écoute, très, très franchement, Julien, ils sont plutôt fatalistes. Hein. Les Lillois que j'ai rencontrés ce soir sont d'ailleurs bien au courant de l'aggravation constante des indicateurs de l'épidémie dans l'ensemble de la métropole lilloise, classée en zone d'alerte maximale depuis maintenant plus d'une semaine. Alors finalement, eh bien, pour la plupart, ils acceptent ces nouvelles contraintes.
Si c'est nécessaire, c'est tout, faisons-le. Et c'est mieux qu'un confinement généralisé comme celui qu'on a vécu au printemps. C'est bien qu'on prenne une mesure qui certes est contraignante, mais qui n'est pas dramatique, si ça peut nous permettre de préserver des vies et de préserver l'activité économique.
Alors bien sûr, pour beaucoup, cela va impacter la vie quotidienne, une sorte de confinement nocturne que Jérémy va devoir subir.
C'est pénalisant parce que après, enfin moi, je vois qu'il finit à 19h30, 20h, ça veut dire que je vais rentrer chez moi, je vais rester chez moi, quoi. Et que j'aurai pas la possibilité de faire tous les loisirs que j'ai l'habitude de faire, sortir avec mes amis, boire, etc. Donc ouais, c'est pénalisant.
En fait, ce sont toutes les habitudes de fin de journée qu'il va falloir bouleverser au quotidien pendant au moins 4 semaines. Et cette impression que la vie va s'arrêter le soir à 21h.
C'est aussi pas terrible pour les restaurateurs qui vont encore trinquer et tous les professionnels autour de tout ça. Et je pense surtout à eux, effectivement. Plus qu'à notre petit confort perso, c'est d'abord ces gens-là qui vont être impactés encore lourdement sur une année qui est déjà compliquée.
Et vous savez, Julien, la question que tous les Lillois à qui j'ai parlé se posent ce soir, eh bien, c'est de savoir quels seront les moyens qui seront mis en œuvre pour contrôler, voire sanctionner les incartades à ce couvre-feu.
C'est effectivement la grande question de ce soir. Merci Lionel Gougelot en direct de Lille pour Europe 1. Venons-en justement, on l'a entendu, aux restaurateurs dont l'activité va une nouvelle fois être impactée. Carole Ferry, vous êtes ce soir dans un restaurant parisien où on se pose ce soir beaucoup de questions.
Oui, effectivement, Julien, je suis avec Romain Bergot, le patron de Papa Poule à Bastille. Vous entendez, il y a du monde, hein. Pourtant le protocole est bien respecté, un quart de table en moins. Alors ce soir, Romain a suivi Emmanuel Macron dans un coin sur son téléphone portable. Et même s'il s'y attendait, ça a été la douche froide, suivie en effet de questionnements.
Alors fermer à 21h, bah c'est ni une fin de service à 23h, ni un confinement des 19h. Quoi. C'est, en fait, on est entre deux, mais je sais pas, ils vont jamais au restaurant. Et là, les questions que je me pose, c'est effectivement, est-ce qu'on va rester ouvert le soir? Là, franchement, de but en blanc, c'est non. Du coup, ça implique d'un peu restructurer les équipes. Il va y avoir une partie en chômage partiel. Et puis, ça va être compliqué, quoi. Là, j'ai un peu une boule au ventre, à vrai dire.
Alors, ces clients sont-ils prêts à venir dîner plus tôt pour être partis à 21h? Eh bien, je leur ai posé la question.
Ça reste faisable, hein. Ça reste faisable si on va au resto assez tôt, quoi.
Bah, c'est relou, mais
ça sera possible. Après, si forcément tu pars tard du taf, tu iras pas forcément au restaurant.
Mais jamais de la vie, je n'irai pas au restaurant et je vais partir de Paris parce que ça me rend dingue. Non, moi j'ai pas envie de dîner à 19h, non.
Il reste bien sûr le service de midi, mais avec le télétravail, eh bien, il y a déjà 40% de clients en moins depuis le déconfinement.
Merci Carole Ferry, en direct d'un restaurant parisien. Et à ce sujet, ne manquez pas dans une dizaine de minutes l'interview Écho. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Didier Chesnais, le président du Groupement National des Indépendants, qui regroupe donc des restaurateurs. Alors ce secteur, comme d'autres, vont énormément souffrir avec ce couvre-feu. Le président en est bien conscient, voilà pourquoi il a annoncé ce soir de nouvelles aides.
Le chômage partiel à plein va être réactivé pour tous ces secteurs. Hôtellerie, café, restaurant, tourisme, événementiel, culture, sport. On a donné des délais nouveaux pour les prêts garantis par l'État. On peut décaler d'un an le début du remboursement et on l'a échelonné sur 5 ans avec des taux très préférentiels qui ont été négociés. Et puis, dès vendredi, dans chacune de ces métropoles, on va relancer une concertation locale avec tous les métiers qui sont concernés. Et nous allons améliorer la réponse économique avec tous ces professionnels. Ça veut dire que très concrètement, on va mettre en place des dispositifs supplémentaires parce que, de manière très claire, je ne veux pas que nos indépendants, nos TPE, nos PME ferment, tombent en faillite à cause de ce couvre-feu comme c'était à cause du confinement.
Emmanuel Macron a également annoncé pour les plus modestes une aide exceptionnelle, 150 euros avec 100 euros de plus par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Fini donc les restos le soir, les sorties au théâtre ou au cinéma. Le quotidien de millions de Français va bientôt se résumer à métro, boulot, dodo. Quel impact cela va-t-il avoir sur notre santé mentale? Julien Bugier a posé la question tout à l'heure à la psychologue Catherine Tourette-Turgis.
En psychosociologie, on sait que dès qu'on est dans l'activité empêchée, on crée de toute façon des mécanismes qui peuvent être justement de la peur, de la colère, de la déception, de l'impossibilité d'agir. Alors on sort le soir, alors il y a la phase effectivement, il y a la sphère des plaisirs, la socialisation. On sort pour prendre soin les uns des autres. C'est-à-dire il y a une circulation aussi des personnes pour des raisons affectives et sexuelles.
Vous aviez quantifié, madame, pendant le premier confinement, le nombre de dépressions par exemple sur les Français qui avaient eu cette période de confinement
30% d'anxiété modérée, 6% d'anxiété sévère. Il est dans tous les confinements, il est dans toutes les études sur le confinement, etc. On retrouve toujours ça.
La psychologue et professeure à la Sorbonne, Catherine Tourette-Turgis, qui était ce soir l'invitée de Julien Bugier. Je vous rappelle donc l'information majeure annoncée ce soir par le président de la République, la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 6h à partir de vendredi minuit en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles, Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier et Toulouse.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Dans le reste de l'actualité ce soir, un suspect et des aveux pour le meurtre de Victorine, l'étudiante de 18 ans retrouvée le mois dernier dans un ruisseau en Isère. L'homme de 25 ans qui a été interpellé hier par le GIGN a reconnu les faits. Son domicile a été perquisitionné. Il se trouve à Villefontaine, dans le même quartier où vivait Victorine d'Artois. Le chauffard qui a renversé la nuit dernière un policier de la BAC à Savigny-sur-Orge, en région parisienne, a été identifié. C'est un homme de 39 ans qui, selon les informations d'Europe 1, a déjà été arrêté à plusieurs dizaines de fois pour des affaires de vol. L'individu qui a été surpris au volant d'une voiture volée a renversé le policier avant de prendre la fuite. Le fonctionnaire est toujours ce soir entre la vie et la mort. On termine avec le foot. Les Bleus affrontent en ce moment la Croatie à Zagreb. Où vous trouvez Cyril de la Morainerie? L'équipe de France, est-ce qu'elle mène toujours?
Eh bien non, elle ne mène plus car la Croatie, après 67 minutes de jeu, a réussi à égaliser grâce à Vlasic qui, d'un pointu dans la surface de réparation, avec au démarrage une belle action de Modric, le maître à jouer de cette sélection croate Ballon d'Or, eh bien, a permis à ces Croates de débloquer la situation et de tromper Hugo Lloris qui était intervenu d'une parade décisive en première mi-temps. Les Bleus avaient en effet ouvert le score. Ça s'est bien passé pendant les 20 premières minutes de ce match avec Griezmann qui a marqué son 33e but en équipe de France. Il n'est plus qu'à un but de Trezeguet, le 4e but de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais ensuite, Hier, ça a été un petit peu plus brouillon. Il y a une tête de Lovren, il y a une frappe de Parisic. En gros, les Croates, ben, on les connaît. On sait que ça va vite, que c'est technique. Ce petit pays de 4 millions d'habitants seulement sait produire d'excellents footballeurs. Ils ont été évidemment en finale de la Coupe du Monde battus par les Français. Il y a un mois, ils s'étaient inclinés face aux Français 4-2. Mais la donne a changé. Surtout, eh bien, ce soir, il y a du public. Vous l'entendez, 7000 personnes dans ce très vieux stade Maximir de Zagreb. Et ils se sentent pousser des ailes. Cette formation au damier qui joue mieux pour le moment que les Français, des Français que l'on ne voit pas en seconde période. Ils sont donc à égalité un partout, les Bleus et les Croates, après 68 minutes de jeu.
Merci Cyril de la Morinerie. On vous retrouve à la fin de cette édition pour vivre avec vous les derniers instants de cette rencontre. La météo, Anissa Haddadi, encore pas mal de grisailles demain.
Oui, encore une journée bien grise, effectivement, demain, avec sur le nord-est, l'Alsace, la Bourgogne, la vallée du Rhône, un ciel très couvert, avec des averses tout au long de la journée. Sur les reliefs du Jura, des Vosges, des Alpes, du Massif central, des Pyrénées et de la Corse, donc sur tous les reliefs de France demain, il neige encore avec des flocons à partir de 1000 mètres d'altitude. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec demain. Ailleurs, c'est un ciel couvert qui alterne entre nuages et éclaircies. Sur le Cotentin et la Bretagne, pensez à vos parapluies. Pluie. Demain, la journée sera rythmée par des averses. Au nord-ouest des Hauts-de-France jusqu'au Pays de la Loire, là, le temps sera calme et ensoleillé. Les températures, elles sont toujours fraîches demain et en dessous des normales de saison, avec 4 à 12 degrés demain matin, 8 à 15 l'après-midi sur l'ensemble de la France, avec 8 degrés à Saint-Etienne, 10 à Nancy, 12 à Lyon et 13 à Paris. Nous aurons jusqu'à 18 degrés dans le sud. La maximale est prévue pour Bastia.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview éco. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Didier Chesnay, le président du GNI qui regroupe des restaurateurs dont l'activité va être très fortement impactée par le couvre-feu. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Top à Wall Street, donc, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street recule encore, faute d'un nouveau soutien budgétaire qui se fait toujours attendre aux États-Unis.
Oui, le fameux coup de pouce budgétaire en négociation entre républicains et démocrates reste pour le moment dans l'impasse et ça commence à peser sur la tendance à Wall Street. Le Dow Jones recule de 0,58%, 28 514 points. Le Nasdaq, moins 0,8%, 11 769 points. Le calendrier politique avec l'échéance électorale du 3 novembre aux États-Unis qui se rapproche à grands pas n'aide pas les négociations budgétaires et donc ça plombe l'ambiance avec les banques qui baissent nettement. Les comptes trimestriels ne sont pas brillants du côté de Bank of America, moins 5%. Wells Fargo perd 6%. Et puis les valeurs de technologie aussi sont discutées. Amazon, moins 2,3%. On a aussi Microsoft qui perd 0,9%. Apple est plus stable, 121,20 $ après sa baisse d'hier. Le pétrole remonte un petit peu, 41 $, plus 2%. L'euro est stable, 1,1750 face au dollar.
Quant à la Bourse de Paris, elle a aussi reculé sur fond de crainte sanitaire grandissante en Europe. On l'a vu ce soir.
C'est très morose, moins 0,12%, 4941 points. Il ne s'est pas passé grand-chose. La résurgence épidémique en Europe et les nouvelles mesures sanitaires annoncées ces dernières heures gèlent les initiatives en bourse. Comme quasiment tous les jours d'ailleurs, ce sont les secteurs les plus exposés à la crise qui s'enfoncent un petit peu plus bas, à commencer par l'aéronautique, l'aérien, donc Figeac Aero, moins 6%, Airbus, moins 2,5%, Dassault, moins 2%, Air France ne vaut ce soir que 3 euros. Ailleurs, sur les autres places financières, pas beaucoup d'animation non plus, Bruxelles, 7,01%, Amsterdam, moins 0,1% aussi, Milan, plus 0,2%. Et donc le CAC 40 à Paris, moins 0,12%, 4941 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco.
Tout de suite retrouvez l'invité éco avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Didier Chesnay.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'être en ligne ce soir avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président du GNI hein, qui regroupe des restaurateurs, des hôteliers. Ce soir, on entend beaucoup de professionnels dire qu'avec les mesures annoncées dans les grandes métropoles françaises par le président de la République, le nouveau confinement, c'est une fermeture déguisée du monde de l'hôtellerie et de la restauration. Quel est votre sentiment, Didier Chesnay ?
Mais absolument. À partir du moment où on vous dit qu'à partir de 21h, vous ne pouvez plus circuler dans ces grandes métropoles, eh bien, ça veut dire que votre personnel, notre personnel, il faut le libérer aux alentours de 20h parce qu'il n'habite pas en cœur de ville, bien évidemment. Et puis nos clients, on les met dehors à quelle heure pour qu'ils soient rentrés chez eux? On ne leur demande pas où ils habitent. Donc c'est une fermeture déguisée de nos établissements.
Une voilà. fermeture c'est déguisée une qui va avoir de grosses conséquences, j'imagine, parce que si les restaurants, par exemple, ne font pas le service du soir, c'est cataclysmique.
Bien sûr, le service du soir, c'est 70% du chiffre d'affaires de la journée. Vous imaginez? On a déjà perdu 50% de notre chiffre d'affaires, rien que par les mesures donc, que nous appliquons, bien entendu, donc les mesures du protocole sanitaire. Et quand il n'y a pas de restaurant, quand les restaurants sont fermés, ça veut dire que les hôtels non plus ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'on est en train d'entraîner donc, les restaurants, les hôtels, vers des fermetures qui ne veulent pas dire leur nom. C'est-à-dire que c'est nous qui allons prendre la responsabilité de fermer nos établissements et ce ne sera pas une fermeture administrative et donc un certain nombre d'aides qui sont accordées, eh bien, elles ne fonctionneront pas parce que c'est réservé aux fermetures administratives.
Didier Chenet, on est 2 heures après les annonces du président de la République. Qu'est-ce qui vous remonte de la part de vos membres? De l'énervement et peut-être le fait de vouloir contester ces annonces?
On est à bout, mais non. Mais nous, si vous voulez, on est dans une situation... Nous, on veut travailler. On n'est pas des mendiants, on ne vient pas chercher des aides. On veut travailler. Maintenant, ce que nous demandons au président de la République, il a dit, pas de faillite du fait du Covid. Zéro chiffre d'affaires, zéro charge. Quoi qu'il en coûte. Eh bien, maintenant, nous demandons au gouvernement de respecter la parole du président de la République et de venir nous indemniser. Parce que vous comprenez bien que quand on nous dit le chômage partiel, on vous le paye à 100%. Mais c'est faux! Pendant le temps du chômage partiel, nos salariés, eh bien, ils ont droit au congé payé. Ça représente 10% de notre masse salariale. Qui va la payer alors qu'on n'a pas d'activité? Nos loyers, qui va payer les loyers alors qu'on n'a pas d'activité?
Parce que le président de la République, ce soir, a dit effectivement que le chômage partiel serait prolongé, mais c'était déjà annoncé. Il a dit également que les prêts garantis par l'État allaient avoir des durées de remboursement plus longues à des taux d'intérêt intéressants. C'était déjà annoncé. Il a dit en revanche qu'il y aurait de nouveaux dispositifs spécifiques pour vous. De façon très concrète, vous avez besoin de quoi pour passer cet énorme choc à nouveau, Didier Chenet?
Nous avons besoin qu'on nous indemnise sur nos pertes d'exploitation. Nous sommes fermés, ce n'est pas de notre fait. Nous disons simplement aujourd'hui, on ne va pas emprunter, on ne va pas prendre des PGE pour rembourser des pertes dont nous ne sommes absolument pas responsables. Donc, par conséquent, maintenant, il ne s'agit plus de discuter du chômage partiel, d'allègement de charges ou quoi. Nous, c'est de dire, voilà, on a des pertes, on accumule des pertes depuis des mois du fait de ces fermetures successives, du fait de ce stop and go auquel nous sommes soumis. Donc maintenant, il faut prendre en compte nos pertes et nous indemniser.
Voilà. Si ce n'est pas le cas, on est d'accord, ce sont véritablement des dizaines de milliers de postes qui sont en jeu?
C'est des dizaines de milliers d'entreprises et c'est plus de 200 000 emplois qui sont en jeu. Voilà.
Est-ce que vous craignez par ailleurs que le fait qu'il n'y ait pas une mesure qui soit sur tout le territoire, ce sont seulement l'Île-de-France et les autres grandes métropoles, on va dire que c'est environ 18 millions semble-t-il de Français qui sont concernés, bien que certains quand même sortent de ces grandes villes pour aller en vacances autre part, là par exemple pour les vacances de la Toussaint?
Oui, on peut l'imaginer. Vous savez, c'est 8 métropoles plus Paris-Île-de-France, c'est 80% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie-restauration. Donc le reste représente 20%. Ce n'est pas rien, mais c'est 20%. Donc, on peut, et je l'espère, je suis là à leur dire, nous, on est fermés, allez chez nos confrères, s'ils ont le bonheur de ne pas être sous le couvre-feu. Mais c'est peanuts, quoi. Pardonnez-moi le terme un peu vulgaire.
Oui, parce que là, pour qu'on comprenne bien, vous dites que si on n'ouvre pas le soir dans ces grandes métropoles, et j'imagine principalement à Paris, ça ne sert à rien d'ouvrir, il faut fermer les restaurants, il faut fermer les hôtels, parce que ça nous coûterait de l'argent d'allumer la lumière?
Mais absolument, parce qu'on a déjà accumulé des pertes, c'est absolument pas rentable. On ne peut pas fonctionner. Et on a des salariés. Les salariés, on ne peut pas les déplacer comme ça et leur dire du jour au lendemain, « Oh, tu vas venir travailler une heure et puis tu vas... » Non, il y a un minimum de respect. Respect pour nos entreprises, respect pour nos collaborateurs.
Mais est-ce que vous comprenez qu'il fallait en arriver là parce que certaines personnes n'ont pas été sérieuses? Et je ne parle pas des restaurateurs, mais des gens qui viennent dans les bars ou dans les restaurants.
Mais vous avez parfaitement raison, nous sommes en train de... Alors, sur le fait que le président a pu prendre ces mesures, Nous, on comprend très bien que manifestement, il y a un problème sanitaire, manifestement, le virus court. Mais nous sommes en train de payer, effectivement, donc, le fait qu'une minorité ne respecte pas les précautions sanitaires, et je ne parle pas de nos restaurateurs, bien entendu.
Eh bien, en tout cas, un grand merci. On a entendu votre cri de colère ce soir en direct sur l'antenne d'Europe 1. Didier Chenet, le président du GNI qui regroupe les restaurateurs et les hôteliers. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité écho avec Chronopost. Chaque jour, Chronopost accompagne les PME françaises. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Restez avec nous dans un instant, on va faire un dernier crochet à Zagreb où les Bleus affrontent en ce moment la Croatie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30.
22h29 sur Europe 1, l'heure de prendre la direction de Zagreb où l'on vous retrouve, Cyril de la Morinerie. Dernière minute de ce match Croatie-France avec des Bleus qui mènent à nouveau.
Et oui, ils ont repris l'avantage en effet grâce à un but de Kylian Mbappé. Nous étions à la 79e minute. Didier Deschamps venait de faire un changement très important. Rabiot sorti, remplacé par Paul Pogba. Et c'est lui, Paul Pogba, qui au milieu de terrain a orienté le jeu en délivrant une belle passe sur le côté gauche à Lucadin qui est avancé à toute vitesse pour centrer alors qu'il était sur le côté gauche au deuxième poteau sur Kylian Mbappé. C'était à ras de terre et Kylian Mbappé et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets à frapper bien évidemment. Mais le plus dur était fait. Très belle action collective. On les a vus vraiment se féliciter, notamment Digne et Pogba, alors que Digne vient de sortir remplacé par Lucas Hernandez. Mais c'est bien joué de la part de l'équipe de France qui souffrait face à la sélection au Damier, qui a effectivement beaucoup de technicité, qui est allé vite. Goloris avait fait une parade tout à l'heure, mais avait succombé à une frappe de Vladic à la 65e minute. Mais voilà, c'est bien pour cette équipe de France qui donc mène 2-1, en sachant que dans l'autre match du groupe à 3 de la Ligue des Nations, eh bien le Portugal mène 3-0 face à la Suède. Donc si les scores en restaient là, eh bien le Portugal resterait en tête à égalité avec la France, mais avec une meilleure différence de but. Voilà, dégagement de Loris et ici, eh bien après 82 minutes de jeu, toujours 2-1 pour les Français face aux Croates à Zagreb.
Merci Cyril de la Morinerie, en direct à Zagreb pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Ça va. Je me disais à l'instant que votre libre antenne n'avait jamais été sûrement aussi nécessaire pour les Français.
Oui, exactement. Bon, mais on va essayer de faire de notre mieux pour égayer ce moment-là jusqu'à 1h du matin.
39-21 pour venir témoigner, venir raconter ses histoires, sa vie, ses coups de cœur, ses coups de peine dans votre libre antenne.
Exactement. Et je vous retrouve à 23h, mon cher Julien, pour le flash.
À tout de suite.
À tout à l'heure.